Le chapitre 9 de l'Évangile selon Jean nous rapporte une scène semblable à beaucoup d'autres dans la vie du Christ, la guérison d'un aveugle de naissance. Mais il est impossible de lire cette page sans être frappé par le réalisme de l'apôtre Jean et la pénétration de son coup d'œil. D'une part, il y a le malade. Il est dans la nuit. Il ne connaît pas la lumière. À travers sa guérison, nous voyons l'expression de la mission de Jésus, sans cesse soulignée. « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Je suis venu comme une lumière dans le monde afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. » Et d'autre part, il y a les témoins, les Juifs enfoncés dans leur obstination aveugle. Cette lumière était la véritable lumière qui éclaire tout homme. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Aussi n'est-il pas étonnant d'entendre Jésus parler de l'aveuglement profond de ceux qui ne veulent pas voir. « Je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. » C'est le renversement des rôles que Jésus signalait lorsqu'il bénissait son Père, de s'être manifesté aux petits et de se cacher aux orgueilleux. Quelques pharisiens qui se trouvaient là, par hasard, se sentent visés. Comme on fait en pareil cas, ils protestent en exigeant que Jésus mette les points sur les i. Oserait-il insinuer que les pharisiens sont aveuglés, car ils avaient compris qu'il n'était plus question de cécité physique, mais d'aveuglement moral? Nous aussi sommes-nous aveugles? Jésus leur répondit, « Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché, mais maintenant vous dites « nous voyons », c'est pour cela que votre péché subsiste. » Répondre du tac au tac par l'affirmation n'aurait en effet avancé à rien. Jésus va plus au fond de la situation en opposant les vrais aveugles, qui n'en peuvent pas, à ceux qui, étant aveugles, prétendent voir clair et se montrent rebelles à toute guérison. Les premiers ne sont pas responsables, leur cécité n'est pas coupable. Les seconds ne veulent pas voir, soit à cause de leur négligence, soit à de propos délibérés. Par leur obstination insensée, ils se mettent dans l'impossibilité de recouvrer la vue. Tel est l'état des pharisiens. Notez que nous ne pouvons pas dire « tel était l'état des pharisiens », car ils sont encore parmi nous. Et peut-être nourrissons-nous encore dans notre propre vie certains de leurs travers, si ce n'est celui-là. Et nous, sommes-nous aussi des aveugles? Nous avons entendu la réponse de Jésus. Elle s'adresse aux pharisiens, ceux de tous les temps, ceux qui se sentent tranquilles et en sécurité dans leur conscience, parce qu'ils pratiquent les signes extérieurs de la religion. « Toi, dira l'apôtre Paul, dans un terrible réquisitoire, toi qui te glorifies de Dieu, qui connais sa volonté, qui apprécie la différence des choses, toi qui te flattes d'être le conducteur des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, le docteur des insensés, le maître des ignorants, toi donc qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. » Mes chers amis, je vous invite avec moi à vous sentir personnellement atteints par cette réponse de Jésus à ses auditeurs. Car nous sommes encore trop souvent comme eux, dangereusement satisfaits de notre apparente honnêteté. Nous nous sentons trop souvent bien portants spirituellement. Indignés comme les pharisiens lorsqu'on ose mettre en doute la sincérité de notre engagement religieux ou de notre foi en général. Profitons de cet épisode dans la vie de notre Seigneur, non pas pour ricaner de la déconfiture des pharisiens, mais pour nous aider à démasquer le péché des honnêtes gens que nous sommes, à préciser ses aspects, ses dangers, sa source profonde. Il y a beaucoup de gens très convenables aux yeux du monde, mais qui ne savent pas ce que c'est que d'aimer Dieu et leur prochain de tout leur cœur, et qui s'imaginent naïvement obéir au sommaire de la loi, alors qu'ils en enfreignent constamment les exigences. Jésus a trouvé souvent une plus grande capacité d'amour chez les pécheurs que chez les justes. Voyez les honnêtes gens dans les paraboles de Jésus. Honnêtes gens, assurément, le prêtre et le lévite qui accourent vers Jérusalem pour reprendre leur service dans les parvis sacrés, et qui auront bien vite effacé de leur mémoire l'image douloureuse du blessé rencontré sur la route déserte de Jéricho. Honnêtes gens qui demain regarderont du haut de leur fierté sacerdotale le Samaritain, miséricordieux peut-être, mais Samaritain quand même, membre d'une race infidèle. Ainsi, ne sommes-nous pas également paralysés dans notre élan d'amour, qui ne devrait connaître aucune limite, par des calculs et des préjugés de toutes sortes, tout en nous drapant dans notre respectabilité de croyants pratiquants? Nous sommes également, nous, les honnêtes gens, guettés par l'orgueil de l'honnêteté et de la respectabilité, l'orgueil qui conduit l'homme à juger son frère et à fermer les yeux sur le mal caché qui demeure en son propre être intime, l'orgueil artisan de la chute, de la chute primitive et de tant d'autres chutes depuis. Souvenez-vous de la parabole du pharisien et du publicain. Le pharisien est l'honnête homme, un citoyen au-dessus de tout soupçon. Le publicain exécré, méprisé par les bien-pensants. Jésus les voit tous les deux au temple. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères ou même comme ce publicain. Je jeûne deux fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. » Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. » Je vous le dis, celui-ci est descendu dans sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Nous qui sommes d'honnêtes gens, ayons au moins l'honnêteté de nous reconnaître dans ce pharisien qui énumère ses vertus, qui fait la comptabilité des travers des autres et ferme ses yeux sur sa radicale misère. Souvenons-nous de cette mise en garde de Jésus. Si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Oui, Seigneur, nous aussi, nous sommes aveugles. Nous nous imaginons sans reproche parce que nous n'avons commis aucun acte grossier, parce que notre réputation est sans tache, parce que nous jouissons de la considération publique, parce que nos petits défauts personnels, tribut payés à la faiblesse humaine, ne sont rien à côté des péchés criants des autres. Nous sommes aveugles parce que n'étant ni rapaces, ni voleurs, ni adultères, ni meurtriers, nous nous imaginons que nous ne sommes pas pécheurs et que nous n'avons pas besoin de mendier le pardon de notre Dieu. Combien sommes-nous ainsi qu'une honnête moralité exile hors de la terre sainte et de la foi et de la vraie prière? Ouvre-nous les yeux, Seigneur. Fais que nous consentions à voir notre véritable visage dans le miroir de ta parole. Dans le livre de l'Apocalypse, il y a un texte qui m'effraie toujours. Le voici. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis « je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien » et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu afin que tu deviennes riche et des vêtements blancs afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas et un collier pour oindre tes yeux afin que tu voies. Où ira-t-il se réfugier notre orgueil d'honnête homme, dès l'instant où nous consentons à déchiffrer la volonté de Dieu à travers la révélation de Jésus, qui condamne le regard impur comme l'inconduite, la colère comme le meurtre, le mensonge comme le faux serment? Où chercherons-nous un abri contre le Dieu saint, dès l'instant où le péché n'est pas seulement dans ce que nous faisons ou dans ce que nous ne faisons pas, mais où il est déjà dans ce que nous pensons? Mais il n'y a pas que l'orgueil, il y a aussi l'égoïsme au fond de nous. Cet amour de soi qui nous lie solidairement à une humanité perdue, l'égoïsme qui fait que tant de vies extérieurement droites sont en réalité de pauvres vies sans joie et sans élan. L'amour de moi est un poison que j'absorbe chaque jour. L'amour de moi choisit la meilleure part et garde la meilleure place. L'amour de moi parle de moi et me rend sourd à la parole de l'autre. L'amour de moi choisit et impose le choix à l'ami. L'amour de moi me déguise et me grime. Il veut me faire briller en effaçant les autres. L'amour de moi me plaint et néglige la souffrance d'autrui. L'amour de moi prône mes idées et méprise celles des autres. L'amour de moi me trouve vertueux. Il m'appelle homme de bien. L'amour de moi m'invite à gagner de l'argent, à le dépenser pour mon plaisir, à le thésauriser pour mon avenir. L'amour de moi me conseille de donner aux pauvres pour endormir ma conscience et vivre dans la paix. L'amour de moi est satisfait de moi. Il m'endort doucement. L'amour de moi est source de souffrance. Il est source du mal. Il est source de toutes les misères humaines, de toutes les souffrances humaines. Sommes-nous aussi des aveugles? Oui, Seigneur, nous le sommes aussi longtemps que notre orgueil nous fait dire « nous sommes les clairvoyants ». Voyez-vous, lorsque nous nous sentons satisfaits de notre état, lorsque nous nous sentons moralement bien portants, nous cessons de faire partie de l'auditoire auquel s'adresse le Christ. Nous n'avons plus besoin de lui, ni de son appel, ni de sa croix, ni de son pardon. Il n'est plus ni notre Sauveur, ni notre Seigneur, car nous l'avons relégué au rang d'un simple moraliste, dont nous suivons plus ou moins vaguement les principes. Voilà sans doute le plus grave péril qui menace l'homme honnête et satisfait. Il n'y a qu'un seul remède à cela. Aller rencontrer Dieu sur son terrain, dans l'Évangile. Écouter son diagnostic à notre égard. Reconnaître qu'il correspond à la vérité. Car par la parole de Dieu, l'homme se découvre tel que Dieu le voit. Un être de chair, vulnérable à toutes sortes de tiraillements, incapable de persister par lui-même dans le bien et drapé dans un grand manteau de suffisance, d'égoïsme et d'orgueil. Il découvre aussi le seul remède, la conversion à Christ, c'est-à-dire une transformation par l'intérieur que Jésus appelle une nouvelle naissance. Car la parole de Dieu fait naître la foi, laquelle conduit au repentir et au baptême pour le pardon des péchés. Alors seulement, l'homme régénéré peut s'exclamer comme l'aveugle guéri par Jésus, « J'étais aveugle et maintenant je vois. » Et que voit-il? Ce que son orgueil, sa suffisance et son égoïsme lui voilaient jusqu'alors. La toute-puissance de Dieu et son amour pour lui. Le sens de la vie, c'est-à-dire sa direction et sa signification véritable. Son espérance pénètre jusqu'au-delà de la mort, qui est désormais dépouillée de son manteau d'épouvante. Selon l'expression de l'apôtre Paul, il marche non par la vue, mais par la foi. Il regarde non pas aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères, mais les invisibles sont éternelles.